Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux d'Ardèche et de l'univers. Vous êtes à l'écoute de l'Onde Curieuse, le magazine d'info locale loquace de fréquence 7, comme le dit si bien mon collègue Quentin. Bonjour Quentin.
Bonjour.
Et vous avez bien raison. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'encapacitation. Ce terme qui est un peu alambiqué englobe en fait la notion d'apprentissage et celle de monter en puissance par la connaissance.
Et oui, j'ai essayé de résumer ça un peu rapidement en une seule phrase. C'est pas mal, non ? C'est ça.
Parfait.
Ça recouvre. du coup, l'encapacitation, c'est aussi un des objectifs de l'Atelier Soudé. L'Atelier Soudé, c'est une association lyonnaise que j'ai rencontrée cet hiver. Ils accompagnent le public dans la réparation de leurs objets électroménagers et électroniques du quotidien. C'est l'objet de la deuxième partie de notre émission. Du coup, un entretien à suivre.
Et pour le moment, bah, c'est quelques actualités sur la vie d'ici.
Ah. Attends, on l'a refait.
Oui. Et pour le moment, voici quelques actualités sur la vie d'ici. Vous l'aurez compris aussi, Quentin est à la technique et non pas Sylvain aujourd'hui. Alors aujourd'hui, dans les actualités, nous ne parlerons pas de la réforme des retraites. Non,
ah bon ?
Non, on n'en parlera pas.
On est en deuil, mais alors de quoi on va parler ? Qu'est-ce qui nous reste à raconter ?
Si, on va quand même un petit peu parler de sécheresse quand même, mais pas de sécheresse d'âme cette fois-ci. Non, la sécheresse, c'est malheureusement probablement le titre du tube de l'été, et qui prend de l'avance puisque c'est déjà l'actualité ce printemps.
Et oui, la préfecture de l'Ardèche avait déjà classé au niveau alerte sécheresse le bassin de Louvèze et de la Perre, donc ça c'est un peu coutumier. Et puis depuis vendredi, en raison d'une baisse progressive des débits dans les rivières, la préfecture a étendu les restrictions d'usage de l'eau à d'autres bassins versants du département, donc la Baume-Chassezac, le Doubs et l'Aix dans le nord Ardèche et la Sèze dans le sud-sud Ardèche. Ils sont donc eux aussi placés en alerte.
Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Et bah concrètement, ça implique un usage très plus encadré de l'eau pour arroser les espaces verts, les espaces sportifs, les pelouses des particuliers. Donc c'est les lundis, mercredis et vendredis de 20h à 9h du matin.
La nuit donc.
Oui, c'est ça. Et l'interdiction du lavage des voiries et des voitures. Enfin, alors en fait, c'est pas exactement une interdiction totale, c'est-à-dire qu'on a le droit de laver sa voiture, mais dans les espaces faits pour où l'eau est récupérée, refiltrer et réutiliser. Voilà, en fait, c'est pas tant du gaspillage d'eau que ça, j'ai appris il n'y a pas longtemps. Voilà.
Mais c'est un coup dur pour mon voisin, par contre.
Et ouais, c'est ça, fini le lavage à grande eau dans la cour. Bon, après, tu sais, je suis pas sûr qu'on soit en mesure de vraiment pénaliser les gens qui contreviennent. On verra, la police, s'ils font leur boulot dans ce domaine-là aussi. On verra. Pour les agriculteurs, l'arrosage commence aussi à être réglementé dans les secteurs concernés. Agricultrices, agriculteurs, paysannes, paysans, vous êtes invités à vous rapprocher de la préfecture et de la chambre d'agriculture pour en savoir plus.
Et on parlera d'ailleurs très bientôt dans l'Onde Curieuse de l'usage de l'eau dans la vigne avec les vignerons ardéchois.
Et oui, l'usage de l'eau dans la vigne d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est quand même une notion assez nouvelle, le fait d'arroser la vigne.
Donc on en parlera peut-être le 25 avril, mais on vous en redit plus dans peu de temps. Et oui, la prise de conscience et de mesure doit être l'affaire de tous, comme le souligne la préfecture, qui nous dit la précocité de la sécheresse doit inciter tous les usagers à réduire autant que possible leur consommation.
Donc leur consommation et leur utilisation de l'eau. Donc tous les usagers, ça veut dire aussi dans le tourisme.
Pendant ce temps-là, effectivement, les professionnels du tourisme en Sud-Ardèche semblent construire leur propre réalité et tiennent à rassurer. Les conditions, je cite, « les conditions pour naviguer en canoë sont bonnes, il n'y a aucun souci ».
Eh ben non, il n'y a aucun souci, il y a encore un peu d'eau dans l'Ardèche et dans le Chassezac. Alors après, j'étais à la conférence au PNR la semaine dernière sur l'eau et sur donc les crues et la sécheresse. Et en fait, les débits de ces deux rivières navigables sont gérés en amont par les barrages, donc sur le lac d'Issarlès et sur l'autre, pour le Chassezac, comment il s'appelle, je ne sais plus. Et en fait, le barrage, la retenue d'eau qui alimente l'Ardèche, alimente aussi la Loire. Et en fait, il y a une dispute constante entre les deux syndicats de gestion des eaux pour savoir qui aura le droit de mettre de l'eau dans son fleuve pour la saison sèche. Et là, le débat est déjà âpre.
Eh bien, en tout cas, les professionnels du tourisme essaient de créer des nouveaux outils pour, comme le dit Vincent Orsel, le directeur de l'Office du tourisme des Gorges de l'Ardèche, comme il l'a dit au Dauphiné Libéré, je cite, « optimiser au maximum l'expérience des clients sur la rivière ».
Alors par exemple, on crée un genre de bison futé des canoës dans les gorges à partir du 15 mai. Le principe, c'est d'informer les usagers sur les jours et les horaires de fréquentation pour essayer de lisser la pratique plutôt que de l'interdire.
Ouais, les clients auront une visibilité sur le niveau d'eau et la fréquentation. Donc les touristes viendront bien, puisqu'on leur dit qu'il n'y a pas de souci. Ils verront et puis on verra s'ils repartent après avoir effectivement fait du canoë.
Bah oui, il y a une aire de retournement toute neuve d'ailleurs à Vallon-Pont d'Arc qui permet aux camping-cars et aux autocars de repartir.
Oui, j'y vois un signe. Bah écoute, Quentin, moi tout ça, ça me donne envie de prendre de la hauteur et de parler quelques instants philo.
Et bah avec joie. Donc il y a un rendez-vous déjà ce mercredi, donc le 19, de 19h à 20h30 à la librairie de la Belle Oursette au Vence.
Oui, il sera question du jeûne comme expérience philosophique avec Sébastien Charbonnier et Eva Lera qui viendront présenter leur livre justement intitulé « Le jeûne, une expérience philosophique ». Et au-delà des arguments biologiques sur les bienfaits du jeûne, eux, ils proposent une perspective, enfin, ou plutôt des perspectives sur les dimensions plus éthiques, politiques, écologiques de cette, cette expérience humaine.
Bah oui, c'est vrai qu'en fait, il y a quand même eu souvent des jeûnes traditionnels. Hein, le carême chrétien, là, c'était 40 jours de jeûne. On a le ramadan en ce moment, donc salutations à celles et ceux qui sont en train de se retenir de manger toute la journée.
Exactement, c'est pas uniquement effectivement pour des bienfaits de liposuccion, des graisses. J'en profite aussi pour évoquer, on en parle de temps en temps, mais les cafés philo que l'Aube organise, l'Aube c'est le café au Vence, les vendredis, enfin certains vendredis, et qui sont animés justement par ce même Sébastien Charbonnier, qui se définit lui comme apprenti sorcier des idées et chercheur de nouvelles pratiques philosophiques.
Donc ça, c'est les cafés philo de l'Aube. Donc vous pouvez trouver des infos sur leur page Facebook pour voir les prochains rendez-vous. Alors l'Aube, c'est assez génial hein, quand même. Ils ont ouvert il y a presque un an, même pas. Et ça pullule d'activités en tout genre. Il y a des ateliers de teinture, il y a des ateliers de crochet, de couture, de la philo, des sessions musicales.
Jeux d'échecs aussi. Bah, on viendra peut-être, on les invitera. En tout cas, vraiment, allez-y. Il y a une super programmation. Ouais. Mais pour parler philo, il se peut qu'il y ait quelque chose sur Aubenas. Alors attention, exclusivité.
Attends, une petite musique d'exclusivité, j'en profite, je fais la régie.
Ah oui.
Attends, ça n'a pas marché.
Ah non. Allez, attention, exclusivité. Oui, c'est le lancement à partir du 27 avril, c'est-à-dire jeudi prochain, d'un atelier philo à Aubenas qui aura lieu tous les 2e, 3e et 4e jeudi de chaque mois. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais il faut commencer par là. Qui aura lieu donc au café-restaurant La Renaissance à partir de 18h.
Et oui, du coup, c'est bien comme régularité, parce que ça veut dire que vous n'avez qu'une chance sur quatre de vous planter si vous vous pointez un jeudi soir.
C'est ça, c'est ça. Ouais, exactement. Et puis surtout que les trois prochains jeudis, il y a Café Philo, donc je ne sais pas quoi, mais en tout cas...
Tu connais pas les thèmes un peu qu'ils proposent? C'est Olivier Horry qui anime?
Voilà, c'est Olivier Horry, donc Olivier que vous connaissez bien ici, hein, Les Jardins Suspendus, un livre, un film et Cinémascope. Olivier Horry qui était prof de philo. Et donc, il va animer ses ateliers. Les sujets, alors je ne sais pas, en tout cas, c'est autour de questions de société. On en saura un petit peu plus hein, dès jeudi prochain. On vous en dit plus sur cet atelier donc, qui aura lieu à la Renaissance à Aubenas à partir de 18h.
Donc, des cheminements de réflexion, des outils d'analyse, des conseils de lecture et peut-être du débat. Votre sport préféré?
Le débat, ouais, en Quentin. Le débat, tu sais, c'est cette chose quand on s'écoute. Quand on...
Ah non, je suis pas d'accord.
Ah non. Non, je ne change pas de position, absolument pas. Non, je ne change pas de position. Que se passe-t-il?
Non, le débat, c'est pas s'écouter, c'est plutôt s'écouter.
Eh oh. Ça me fait penser à quelque chose, mais on a dit qu'on n'en parlerait pas aujourd'hui. On relève quand même l'initiative de Hervé Solignac qui, pour la troisième année consécutive, met en place les petits débats.
Oui, c'est comme le grand débat qu'avait lancé le gouvernement.
Exactement.
Il y a 3-4 ans.
Exactement, c'était en référence à ça. Et pour lui, débattre dans des grandes salles bondées, ça ne fait pas forcément avancer les choses. Donc Hervé Soulignac a mis en place des petits débats, c'est-à-dire qu'on échange entre quelques personnes, une dizaine de personnes, et ça se passe chez vous. Donc le principe, c'est... vous invitez Hervé Solignac chez vous, vous invitez aussi quelques amis, une dizaine, sur 6 créneaux qui sont ouverts.
Et on l'aligne sur plein de sujets qu'on veut. Non, en fait, ça, ouais, ça se programme un peu à l'avance, il faut aller voir un peu sur sa page Facebook ou sur son site internet, je crois que c'est hervesolignac.fr.
C'est ça.
Il y a une ligne téléphonique, bref, il propose 6 créneaux sur le printemps pour venir débattre chez vous. Donc plus d'infos au 04 75 64 56 49 si vous voulez recevoir notre député à la maison et lui poser des questions et échanger, débattre. C'est sympa quand même.
Oui, 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 non, mais c'est chouette comme initiative. Donc c'est à partir du jeudi 20 avril. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez sur les sites qu'a décrit Quentin.
Alors du coup, ceux qui sont en dehors de tout débat, c'est les chasseurs.
Ah, les chasseurs.
Oui, les chasseurs en dehors de tout débat, puisque du coup la Fédération de chasse 07 organisait son congrès annuel ce samedi au Pouzin. Donc ça s'est passé toute la journée. Il y a plus de 700 adhérents qui ont participé, ainsi que des élus de tout poil, puisque du coup c'était une grosse réunion d'autocongratulation au lendemain de l'annonce par le département de 150 000 euros d'aide à la Fédération de chasse locale pour les aider à encadrer les pratiques et l'accompagnement à l'environnement.
Ouais, les chasseurs qui se considèrent toujours comme des piliers dans la protection de l'environnement.
Ouais, c'est une confusion systématique dans leur langage entre la protection et la gestion. Et en fait, les discours sont toujours un chouïa faussé. Le président de la fédération, Jacques Orange, rappelait que les aides perçues par les chasseurs, de la part de la région et du département notamment, permettaient d'investir dans l'éducation à l'environnement, notamment en milieu scolaire.
Oui, et c'est l'association Biodivers, par exemple, qui touche d'importantes subventions pour son action auprès des entreprises et des scolaires.
Et oui, c'est une chouette association Biodivers. Oui. On est allé voir un peu leur site internet. Alors, c'est une association de promotion de la biodiversité, notamment, et des bonnes pratiques environnementales. Et ils ont, du coup, notamment pour partenaires, donc les fédérations de chasse de la Drôme et de l'Ardèche. Un de leurs conseillers techniciens est un technicien cinégétique. Donc, c'est les mecs qui sont chargés auprès des fédérations de chasse de gérer un peu le gibier et les animaux. Donc cet asso financé par les fonds touchés par les fédérations de chasse a pour partenaire donc les fédérations de chasse elles-mêmes, effectivement, mais aussi l'aéroport de Valence, le groupe Veolia ou Eliantis, qui sont des spécialistes de la semence modifiée, donc des grands amis de l'environnement.
Mmh. Ouais. Et lors du congrès de samedi, le préfet d'Ardèche a rappelé que les chasseurs, attention, installez-vous bien, étaient les meilleurs défenseur de la biodiversité et que l'extension de la période de chasse sur le mois de mars avait eu un impact bénéfique sur les dégâts naturels.
Et ouais, encore un problème de vocabulaire et de sémantique, c'est-à-dire qu'en fait les chasseurs, comme ils sont obligés de rembourser les dégâts causés par les sangliers, notamment sur les cultures, on a proposé une extension de la période de chasse sur tout le mois de mars, donc effectivement ça a permis de limiter les dégâts causés par les animaux, mais en même temps ils sont financés, donc bon, bref.
Et les remboursements de ces mêmes... C'est formidable.
Ouais, donc toujours un petit problème de vocabulaire et de sémantique. Moi, je pense qu'on va en reparler parce que on va essayer peut-être même de les avoir en antenne, ça serait chouette. Parce que on rappelle quand même que la chasse au mois de mars, selon certaines associations écologistes, impacte aussi fortement les oiseaux et les animaux sauvages pendant leur période de reproduction.
Tu veux sans doute parler des écologistes dogmatiques et idéologiques. C'était les propos de Laurent Wauquiez en 2016, hein, quand il a augmenté à l'époque de mémoire, je pense que c'était 3 millions d'euros qu'il avait donné aux fédérations de chasse, et dans le même temps il avait baissé les subventions à ces écologistes idéologiques et extrémistes.
Bon, peut-être un futur documentaire du coup sur l'éducation à l'environnement par les chasseurs, mais pour ça il faut attendre que les documentaristes se forment.
Bah oui, ça tombe bien. L'école documentaire de l'USAS annonce l'ouverture des dépôts de candidature en Master 2 documentaire de création option réalisation, et ça donc ouverture des candidatures à partir d'aujourd'hui, 17 avril, et jusqu'au 2 mai. Et les inscriptions sont à prendre sur la plateforme de l'Université de Grenoble, et toutes les infos de toute façon sur le site de l'école documentaire de l'USAS.
On termine avec un peu d'art, de légèreté, d'amour et de pilosité avec la tournée des Fous Semblants qui a commencé hier à Vinzac, hier soir.
Donc qui a commencé hier et qui se poursuit ce soir à Vinzac. Il y a plein de dates. La prochaine, donc oui, effectivement c'est ce soir à Vinzac à 20h, ils présentent leur spectacle inédit Frida et Pablo. En tout cas la première partie de l'histoire, le tome 1, qui s'appelle Une folle romance. Et la deuxième partie, elle sera en tournée en juillet, qui s'appelle Un amour de dingue. Les dates à venir?
Eh ben écoute, elles seront annoncées, on vient de les avoir au téléphone, on va faire une annonce cet après-midi. Donc bref, ils jouent ce soir à Vinzac, mercredi à l'Anas, jeudi au Bourneau à Aubenas, vendredi soir à Jaujac et samedi à la Levade. L'entrée coûte 6 euros.
Mais jeudi, c'est un petit peu enquiquinant, puisque la vraie info de la semaine, c'est la deuxième session de Séquence 7.
Yes, les sessions musicales dans les jardins de votre radio, ça continue avec une deuxième épisode, donc ce jeudi, le 20 avril, de 17h à 21h, avec de la bonne bière locale et pas chère, des petits repas tapas et compagnie préparés par Cantin Cantine, et un super live DJ set de DJ Crazy Bolt. C'est Johan qui est à la recyclerie des Rescapés à Rosières et qui concocte ce set depuis un an et demi, donc on a bien hâte de l'entendre, la drum and bass. Tout le monde adore ça et on n'en entend jamais.
Eh bien voilà, c'est jeudi sur Fréquence 7. Allez, on s'en va en musique avec les Faux Plafonds.
Et c'est leur reprise de AC/DC Thunderstruck. Au grippe, hein, en ouverture. Thunderstruck sur Fréquence 7, c'était Les Faux Plafonds. Donc c'est un collectif français de musiciens complètement incroyables. Ils créent constamment des nouveaux instruments avec des outils de récupération et du recyclage d'objets variés. Je suis désolé si vous écoutiez la radio, là vous avez sans doute remarqué que il y a eu un petit trou blanc pendant le premier quart d'heure de l'émission. La faute à Bibi, hein, puisque je prends mes marques avec la régie et que j'ai complètement oublié d'appuyer sur le bouton qui me mettait en direct. Donc pas de panique si vous avez raté les infos de ce début d'émission, puisque l'onde curieuse est heureusement rediffusée à 17h sans faute.
Et à réécouter en replay à partir de 18h sur le site fréquence7.net.
Voilà, merci de votre compréhension, désolé pour ce petit bémol. Je vous propose de continuer du coup avec le sujet du jour que vous ne connaissez pas puisque je l'ai présenté dans le vent. C'est un entretien avec l'Atelier Soudé, donc l'Atelier Soudé, une association lyonnaise qui accompagne au quotidien les gens dans la réparation de leurs objets électroménagers et électroniques. Je suis maintenant avec Clément. Bonjour Clément.
Bonjour.
Clément, tu es le cofondateur et un des membres toujours actifs de l'Atelier Soudé.
Voilà, exactement. Donc l'Atelier Soudé qui a été créé en 2015. Donc au départ, on était deux. Donc on a pensé à cette association avec Baptiste. Et très vite, on a eu beaucoup d'aide, beaucoup de membres actifs qui nous ont rejoints.
C'était quoi le principe de base de cette association alors ?
Alors, principe de base, c'était qui est toujours le même principe, hein, c'est lutter contre l'obsolescence programmée, en particulier des appareils électroniques, et lutter contre les déchets électroniques par la réappropriation.
Et vous avez créé cette association à Lyon, à deux, avec l'objectif de réparer pour les autres ?
Alors, l'objectif, c'est vraiment de réparer avec les autres. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler en français l'encapacitation des gens. C'est reprendre le pouvoir sur ces appareils et aussi sur les savoir-faire. Donc oui, c'est né à Lyon. En tout cas, on a commencé l'atelier soudé dans un garage à Villeurbanne. Mais nous, on n'était pas donc réparateurs à la base, hein, pas du tout. On connaissait pas grand-chose. Et voilà, très vite, en fait, en faisant quelques bidouilles avec quelques outils, on a réussi à bien réparer les choses. Et donc, naturellement, en fait, c'était aussi une façon de dire qu'on n'a pas besoin d'être expert pour lancer ce type d'initiative.
Donc tu as commencé par vous êtes en capacité vous-même et après vous avez ouvert ça aux autres gens.
Voilà, c'est ça. Puis vraiment, très rapidement, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues pour nous aider. Notamment des anciens qui ont plus de compétences. Et finalement, voilà, hein, de pair à pair, en effet, on a monté en compétences, même si c'est pas... Je dirais que c'est pas non plus le but, finalement, de l'association. C'est vraiment être accessible à tous. Mais c'est vrai que il faut quand même un minimum d'aide et d'entraide pour y arriver.
Donc l'idée, c'est pas de se professionnaliser, mais c'est d'être en capacité de réparer ses propres accessoires et ustensiles quand ça tombe en panne.
Voilà, c'est ça. L'idée ultime, c'est que les gens puissent être autonomes. Mais évidemment, nous, ce qu'on veut aussi, c'est créer du lien. Donc on a aujourd'hui, enfin depuis le début, on a un lieu qui est dédié à ça, qui invite justement à la convivialité, au partage et à la bidouille, quoi, à la bricole.
Vous fournissez les outils. Comment vous avez trouvé un peu les matériaux, les outils? Est-ce que vous achetez des composants? Est-ce que vous avez monté une matériothèque dans laquelle les gens peuvent puiser?
Oui, alors c'est au niveau des outils. Au début, on a commencé avec quelques outils de récup. Au fur et à mesure, on s'est équipé plutôt avec des outils d'occasion. Et évidemment, parce que l'association a quand même quelques années d'existence, on commence à avoir des choses très spécifiques et assez technique comme outillage, même si aujourd'hui je pense qu'on a surtout beaucoup de tournevis, beaucoup de multimètres, beaucoup de choses très utiles comme ça. Et au niveau des pièces, en réalité on a très peu acheté de pièces ou de composants, c'est énormément de récup. Donc on récupère des objets dans la rue, dans les poubelles, ce que les gens nous donnent, on essaie de les réparer. Si on n'y arrive pas, en fait on en fait des pièces, donc on démonte tout. C'est assez long, voilà. Mais on cible des appareils où on sait que telle résistance va nous servir, tel condensateur, etc. Et donc on trie, et au final on fait très peu de déchets, mais c'est comme ça qu'on crée nos stocks de pièces et d'appareils à pièces, ou aussi quelques appareils à vendre, reconditionnés.
Et je voyais sur votre stand que vous arrivez même à revaloriser les déchets, genre les cartes électroniques qui ne peuvent plus servir. Vous avez une partie artistique aussi.
Alors voilà, oui, c'est vrai, oui, je m'étais d'en parler, mais les cartes électroniques ou les composants sont... Artistiquement, ça peut être intéressant parce que c'est très coloré. Sur les vieux composants, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Et donc, on en fait des bijoux, des statuettes, des porte-clés. Et l'année dernière, on a aussi réalisé un court-métrage en stop-motion, uniquement à base de déchets électroniques. Alors, c'est visible sur YouTube, qui s'appelle REZ, donc R-E-Z, Atelier Soudé. Court-métrage de 6 minutes, donc c'est quand même assez long, et tout en récup, y compris d'ailleurs dans le matériel de captation ou de les ordinateurs, enfin même tout ce qui nous a servi, c'est de l'occasion de la récup.
D'accord, c'est du matériel que vous avez récupéré, réparé et que vous réutilisez
Bah oui, parce qu'en fait on nous donne un peu plein de trucs et on arrive à s'équiper totalement sans avoir rien acheté.
Du coup, tu me dis que l'association a démarré en 2014. Vous étiez un peu les premiers dans ces créneaux-là sur Lyon, non ?
Sur Lyon, ouais. Alors, pas exactement. Il existait le Repair Café de la Croix-Rousse à l'époque, qui, au moment où l'atelier soudé a pris forme, n'existait presque plus. Après, c'est pas une pratique nouvelle. Hein. Les Repair Cafés, ça existe depuis des années. Mais c'est vrai que dans les grandes villes, en tout cas à cette époque-là, il y en avait très peu. Parce que justement, je sais pas, je pense que cette pratique d'entraide et le temps aussi, prendre le temps de réparer, de faire avec les autres, c'est peut-être quelque chose qui se passait plus en dehors des grandes villes. Le but, c'est aussi voilà, de remettre ça, ce cœur-là, de permettre aux gens de reprendre un peu de temps dans les villes qui foisonnent dans tous les sens.
Et du coup, ça, la réputation et la portée de votre action, elle s'est faite avec quoi ? C'est le bouche à oreille, les étudiants, qui participe ? Qui vient réparer ces objets ?
Alors vraiment, ça touche tout le monde. Hein. En fait, il y a différents aussi types de motivation. Globalement, soit la motivation écologique, soit la motivation financière, économique, soit la motivation, la soif d'apprendre. De redécouvrir et voilà de retrouver des savoir-faire. Et donc en fait l'association se déplace aussi beaucoup, on n'est pas que dans notre local, mais suivant les localités en fait où est-ce qu'on va intervenir, on se rend compte qu'il y a toujours du monde qui est là et ça touche vraiment tout public, que ce soit les jeunes, les plus anciens qui ont besoin d'aide. Hein. Les jeunes, ça serait plus pour réparer des smartphones, par exemple, les choses qui sont de leur quotidien. Et l'entre-deux, beaucoup de personnes actives. On a beaucoup de personnes qui deviennent bénévoles, donc ça va être forcément des retraités, mais aussi des personnes qui ont du temps, donc au chômage ou en quête de sens. On a énormément d'ingénieurs, finalement, pour le bénévolat qui veulent mettre en pratique et changer un petit peu de mode de vie. Enfin, de société, et au niveau des participants, c'est vraiment tout public.
Et du coup, est-ce que tu constates une évolution dans les appareils que vous recevez et que vous réparez ? Est-ce que on continue ? Parce que ça fait quelques années qu'on connaît le principe d'obsolescence programmée, que ça a été publicisé par Arte notamment, et puis par des documentaires à droite à gauche. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement dans les pratiques des fabricants, ou qu'on va vers davantage d'obsolescence et...
Alors, on a une bonne dizaine d'années de retard dans les objets qu'on voit apparaître. Alors, peut-être pas une dizaine d'années, mais on a quelques années de retard parce que ce que les gens viennent réparer, c'est pas forcément les objets les plus récents. Donc ça, je pourrais pas trop m'exprimer sur ce côté-là. Mais si on voit pas les appareils récents, c'est il y a deux choix. C'est soit ça veut dire que ça fonctionne, soit ça veut dire que les gens les ont déjà changés, enfin je sais pas, ou les rachètent sans cesse, mais c'est difficile à dire en fait, ça dépend vraiment des appareils. Si on prend un ampli audio par exemple, s'il a une vingtaine d'années, on a déjà des composants qu'on peut voir à l'œil, tester, démonter, etc., qu'aujourd'hui un ampli on va dire de même gamme équivalente, donc grand public, ça va être miniaturisé, ça va être une seule carte, on va avoir très peu de composants, on va pas pouvoir intervenir. Donc c'est un peu pareil sur les ordinateurs portables notamment. Aujourd'hui, un ordinateur portable grand public, c'est comme un smartphone mais en plus gros. Donc c'est une seule carte, voire deux, voire voilà, il y a un écran, un clavier, mais c'est à peu près tout. Alors qu'avant, on avait des composants qu'on pouvait changer. Donc là-dessus, il y a une évolution, et ça produit de l'obsolescence, mais je pourrais pas exprimer le fait que ça soit volontaire. C'est juste l'évolution technologique, la miniaturisation, qui fait qu'on en devient à des appareils comme ça. Ou alors, j'ai un autre exemple. Les bouilloires connectées, enfin pas connectées, mais où on peut choisir la température. Ça, par contre, on en voit souvent parce que ça tombe régulièrement en panne, parce qu'on a rajouté de l'électronique sur un appareil qui n'en avait pas besoin, parce qu'une bouilloire, c'est juste électrique. Et c'est très facile à réparer ou en tout cas à diagnostiquer que une bouilloire réglable, ça, c'est là où on rentre plus dans le cadre, pour moi, voilà, de l'obsolescence. C'est complexifier des appareils simples.
Là, du coup, vous arrivez à suivre un peu la marche de la nouvelle domotique connectée. Et c'est, quand tu dis que ça devient plus compliqué à réparer, est-ce que bon, y a une complexité de fait, et est-ce que vous arrivez à vous tenir à jour, à vous former, à suivre ces process-là? Est-ce que on peut imaginer que dans 5 ans, vous serez capable de réparer les frigos connectés qui vous disent combien il reste de beurre?
Dans l'idée, peut-être qu'on pourrait être en capacité, mais c'est pas notre envie, parce que en fait, on se pose même la question aujourd'hui de est-ce qu'on accepte ou pas, en fait, de réparer ces objets-là qui, pour nous, ne devraient pas exister. Là, on a la question des trottinettes électriques. Après, bon, chacun son avis, hein, mais c'est de base compliqué à réparer. Est-ce qu'on a envie de promouvoir ça? Est-ce qu'on a envie de réparer des machines à capsules? Alors aujourd'hui on le fait, machine à café, mais on sait très bien que c'est dur à réparer, on n'a pas vraiment envie de promouvoir ça. Donc je pense pas qu'on verra de frigo connecté, parce que de toute façon on prend pas le gros électroménager. Et si les gens viennent avec ça, je pense qu'au fur et à mesure on comprend que c'est pas le moment ou qu'il faut pas en fait acheter ça.
Du coup, vous arrivez à avoir un travail d'éducation à ça aussi, une éducation à la consommation? Est-ce qu'il y a des gens qui ressortent de vos ateliers en se disant « Bah oui, en fait, c'est con d'avoir acheté ça alors que le vieux grille-pain marchait très bien. » Vous avez cette mission-là aussi de conscientisation?
Alors, on le théorise pas, on va dire. On va pas faire vraiment de la sensibilisation directe auprès des gens. C'est vraiment par la réparation, la pratique, que les participants se rendent compte d'eux-mêmes du problème. Et on va pouvoir du coup introduire quand même quelques notions des ressources qui sont limitées, des matériaux rares qui sont présents dans la technologie. Et après, en fait, le simple fait de démonter, de démystifier, d'expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, d'ouvrir la boîte noire, en fait, les participants d'eux-mêmes vont se poser des questions et probablement de toute façon revenir pour réparer, continuer à réparer et se poser la question de l'achat neuf, en tout cas de l'impact que ça peut avoir.
Est-ce que le credo qui dit que ce qui est pas cher est forcément plus fragile, tu constates que c'est vrai? Est-ce que les grandes marques ont tendance à être vraiment plus solides, ou est-ce qu'il y a des gammes, les gammes tout public, ça, même si c'est Bosch, ça sera...
Alors ça dépend des produits, je dirais. Donc forcément, moins c'est cher, moins c'est de la bonne qualité, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. Quelque chose de cher n'est pas forcément de bonne qualité. Et puis, faut pas se leurrer non plus. En fait, les appareils ont des carcasses différentes, des marques différentes, mais à l'intérieur, c'est les mêmes fabricants, c'est les mêmes choses, les mêmes pièces, les mêmes produits. Et alors, ça a un intérêt pour nous parce que, en fait, on peut interchanger, réparer, peu importe la marque, de la même façon. Mais en fait, ça veut dire aussi que la marque ne change rien par rapport à la fabrication. Sauf dans les cas, je sais pas, par exemple, un ampli, vraiment, je repars sur l'ampli, mais il y a des objets types où même les ordinateurs, quand tu vas y mettre un certain prix, tu sais que tu auras quand même quelque chose de performant, de bien fabriqué. mais c'est pas valable, par exemple, pour, c'est pas vraiment valable pour le petit électroménager, tout ce qui est matériel audio portable, enfin ce genre de choses là.
Ok, ça marche. Moi j'ai une dernière question, c'est sur les réparations qui relèvent pas des composants électroniques que du coup vous n'avez pas forcément obtenu en démontant un appareil précédent. C'est par exemple, un de mes derniers exemples personnels, c'est un mixeur qui lâche parce que la petite molette en plastique qui fait la jonction entre le bras du mixeur et la lame, elle se retrouve érodée, attaquée. Est-ce que vous avez une option pour changer ça ? Est-ce que vous utilisez des imprimantes 3D ? Est-ce que dans ce cas-là, vous trouvez des méthodes alternatives ? Vous renoncez ?
On est plus dans le... Alors, bon, nous, on récupère un petit peu, mais c'est vrai que c'est tout jamais... Enfin, c'est assez rarement la même empreinte, donc on ne peut pas trop le récupérer. C'est des pièces d'usure, donc en imprimante 3D, on a une imprimante 3D, on imprime des fois quelques pièces, mais comme là, il y a une action mécanique assez forte, l'impression 3D s'étend, en tout cas, le type d'impression qu'on a, donc c'est pas trop possible. Après, c'est des pièces qui peuvent se trouver sur Internet, on trouve vraiment tout. Parfois les fabricants mettent à disposition la pièce, mais faut-il que ce soit une marque? Ça c'est sûr que ça peut jouer, puisque aujourd'hui les fabricants sont obligés, en France en tout cas, de mettre à disposition les pièces pendant une dizaine d'années il me semble. Donc si ça va être le cas sur les marques françaises, on peut être sûr normalement de retrouver la pièce.
Et ils ne te vendent pas la pièce au prix du même appareil neuf?
Alors ça, après, c'est pareil, ça dépend. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des petites pièces extrêmement chères pour ce que c'est. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, on évite, on fait vraiment de la récup. Après, à savoir, est-ce que ça vaut le coup ou pas de réparer, nous, dans tous les cas, on récupérera le reste pour en faire autre chose. Et c'est vraiment là... Ce qui est intéressant, c'est que nous, comme on n'est pas dans un mode service, c'est vraiment à la personne, aux participants, de juger si elle a envie de le faire, de dépenser l'argent qu'il faut, de mettre le temps. Et... où on n'a pas de garantie non plus que ça fonctionne, donc c'est aussi cette liberté là d'avoir le choix et de pas annoncer en fait ça va vous coûter tant et du coup bah non je vais pas réparer.
Et voilà, c'était l'entretien avec l'atelier Soudé à Lyon. T'es là, Sophie ?
Oh ben oui, mais je suis là. Et bonjour à celles et ceux qui nous écoutent en direct. Et rebonjour pour celles et ceux qui nous écoutent en rediffusion à 17h.
Donc c'était un petit entretien donc, sur la réappropriation des savoirs et l'encapacitation. Je rappelle que plus près de nous, en Sud-Ardèche, c'est au Recyclard que les troisièmes jeudis du mois, de 17h à 20h, ils organisent un repère café depuis déjà plus de 3 ans. Donc il y a des outils à disposition, il y a une expertise. Vous pouvez apporter votre grille hein, ou votre mixeur. Tu vois, j'aurais bien fait d'y aller avec mon petit mixeur avec son problème de molette.
Et puis on peut parler aussi, mais on en reparlera dans une autre émission, dans un autre genre, Autopia, ce garage solidaire et qui démystifie un petit peu toute cette mécanique.
Ouais.
Voilà. Mais ce sera l'objet d'une prochaine onde curieuse.
On vous tient au courant. Donc moi, je tiens à vous rappeler que donc, ce jeudi, c'est le troisième jeudi du mois et qu'il y a donc un repère café au Recyclard d'Uzère. Mais que peut-être vous n'y serez pas cette fois-ci.
Et non, mais pourquoi, Quentin ? Parce que où seront-ils tous ?
Eh bien, on sera tous dans les jardins de la radio de Fréquence 7, du coup, à Aubenas, pour le deuxième épisode de Séquence 7, les sessions musicales dans le jardin de la radio.
De 17h à 21h, c'est un horaire parfait.
C'est un horaire parfait.
Pour l'apéro, exactement. On sort du boulot, on vient ici à Fréquence 7.
De la bonne bière locale et pas chère, des jus de fruits bio, du vin nature, bref, de quoi se régaler. Petite restauration assurée par Quentin Cantine et surtout une grosse session drum and bass avec DJ Crazy Bolt qui nous présente un set de plus de 2 heures. Bien léché, soigneusement travaillé, soyez nombreuses, soyez nombreux. L'entrée se joue au dé pipé, bien sûr.
Ça va être bon. Sinon, pour attendre jusque-là, on écoute Fréquence 7 et ça tombe bien parce que à 17h, c'est la rediffusion de ce que vous venez d'entendre ou pas si vous êtes en train de la vivre en rediffusion. À 18h, c'est Solidaire d'abord. À 18h45, Les Pieds dans le Parc avec aujourd'hui un petit documentaire sur l'école dehors et ça fait du bien. L'école dehors, donc 18h45, et à 21h, Hexagone Live.
Et ça y est, c'est la fin hein, de cette onde curieuse du lundi. On vous remercie toutes et tous de participer, d'écouter. Rendez-vous demain pour une nouvelle onde curieuse. À propos, le sujet de demain, c'est la June. C'est cette nouvelle monnaie libre créée en France qui commence à prendre un petit peu d'ampleur.
Rendez-vous demain donc. Merci beaucoup Quentin. Et à demain pour une émission complète.